Mon époque, ma radio.
19h-20h, le magasin central de Pierre Ciankowski, c'est sur le Move.
Ça y est, c'est parti là,
j'ai rien. Eh oui, Eric Sadin, c'est parti. Un livre, un disque, un film, des sushis, des robots, des humains, du sexe et la réalité augmentée. Bienvenue dans le magasin central. Un magasin central de qualité ce soir, puisque nous recevons Sexy Sushi pour ce nouvel album. Vous n'allez pas repartir les mains vides.
Coucou
point
toi.
D'interrogation, ça
coucou.
Va, vous allez bien?
Coucou.
Mitch Silver,
t'es
Rebecca
mignonne.
Warrior. Et nous recevons aussi Eric Sadin pour son livre L'humanité augmentée, l'administration numérique du monde. Eric Sadin aux éditions L'Échappée. Ça va, Eric Sadin?
Perfect.
Super. Avec nous également David Sfez et Nicolas Guionnet qui viennent tout juste d'arriver. Ils sont encore suants de l'escalier.
Je confirme.
De 19h à 20h sur le Move, Cianco paye ton caddie.
Magasin central qui commence en musique, bien sûr, comme d'habitude, avec Sexy Sushi. J'aime mon pays, oui.
Bien rangé, j'aime que ma famille m'obéisse, j'aime la chasse et mes copains bourrés, j'aime surtout la représentation du Christ, j'aime que les femmes n'avortent pas, j'aime bien la télévision, j'aime bien l'idée du partage, j'aime cependant ne pas donner mon pognon.
C'était Sexy Sushi dans le magasin central avec J'aime mon pays.
Le magasin central de Pierre Ciankowski, livré à domicile de 19h à 20h.
Ça fait beaucoup rire Eric Sadin, les petits cris de Sexy Sushi. Alors Sexy Sushi, vous êtes venu dans le magasin central, c'était tout au début du magasin central qui était une émission d'été à l'époque. Le pays était alors gouverné par Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, c'est François Hollande qui est aux manettes. Qu'est-ce que ça a changé pour vous?
Le changement, ouais, c'est maintenant.
On était venu pour le tube de l'été en fait.
C'est ça.
Ouais, la Macarena. Ouais.
Ça a marché depuis.
On attend toujours nos droits.
Ça va arriver, ça va arriver.
Pour la Macarena.
Vous n'avez rien reçu.
On n'a rien reçu.
Vous n'allez pas repartir les mains vides.
Les
moignons vides. Les moignons. Point d'interrogation. Pourquoi ce point d'interrogation? Ça me perturbe. Généralement, on dit vous n'allez pas repartir les mains vides. Et là, vous dites vous n'allez pas repartir
non, là,
les mains vides.
Non, c'est la formule Tati le dimanche. Vous n'allez pas repartir les mains vides.
Vous n'allez pas repartir les mains vides.
Ça dépend des familles, en fait.
Je vais vous donner des petits.
Vous ne repartez pas les mains vides.
Chez toi, c'est imposé.
J'ai pas de famille déjà. Je vis seul.
Ah, désolé.
Vous n'allez pas repartir les mains vides, point d'interrogation.
La gaffe.
Alors, mais pourquoi
Bah parce qu'on aime bien les petits trucs comme ça de famille, on est très famille.
Parce que double disque. Hein.
Ouais. Donc pourquoi double disque? Alors c'est ça que je voulais vous demander parce que
il y a deux versions.
Deux versions similaires.
Ouais, deux versions presque similaires. Ouais.
Attends parce que David va répondre à leur place. Vas-y.
Et toi tu vas faire des blagues.
T'as trouvé une explication.
Existe-t-il, j'ai envie de dire, une certaine schizophrénie dans le groupe Sexy?
Non, mais on a trouvé cette astuce pour parce qu'on est pour le divorce pour tous.
D'accord.
Donc nous, on a
chacun repart avec son disque.
Voilà, comme ça, tout le monde est content.
Alors dans ce disque, Mitch Silver et Rebecca Warrior s'appellent R. Silver et Fräulein Warrior. Pourquoi soudain cette désignation germanisante?
Qu'est-ce qui s'est passé? Rebecca, je trouve ça affreux.
C'est vrai, je suis désolé de t'avoir donné ce
pseudo. Ouais. Du coup, Fräulein.
Pour le 10, ça faisait plus chic.
Ça faisait plus chic.
Pour la signature, ouais.
La question que j'ai envie de vous poser, c'est que Sexy Sushi, j'ai regardé, on peut bientôt dire raisonnablement que le groupe existe depuis plus de 10 ans. C'est
oui,
quand même énorme.
Est-ce qu'en 10 ans,
vous avez le sentiment d'avoir fait tout ce que vous aviez à faire? Est-ce que ce disque, ça sonne comme un moment phare du groupe, puisque effectivement les tournées, alors il y avait une date au Trianon à Paris qui a été visiblement assez incroyable, il y a une tournée qui est en cours, qui passera par Laval le 25 mai, par Bordeaux le 1er juin, par Tours le 4 juin, par Paris, encore une fois Solidays le 29 juin, on aura d'autres dates tout à l'heure. Est-ce qu'au bout de 10 ans...
Juste une blague.
Allez-y, Eric.
À part Laval, tout le monde, toutes ces villes sont en Ligue 1, hein. Il me semble. Hein.
À part Bobital, mais ça viendra. Le FC Bobital. Eric Sadin, qui est avec nous, a écouté tout à l'heure Sexy Sushi. Qu'est-ce que vous pensez de Sexy Sushi, Eric Sadin? Ça vous a un peu traumatisé? Vous êtes un peu KO depuis tout à l'heure?
Mais non,
sonné.
Mais je n'ai pas sonné du tout. Ce qui m'a sonné, c'est que j'attendais le CD.
Il est complètement sonné, Sadin.
David a tout fait.
C'est
pour
la poste.
Non, c'est pas ni la poste. Il y a eu quelque chose qui n'a pas très très bien fonctionné. Donc je devais recevoir le CD depuis une semaine. J'aurais pu l'avoir sur un serveur. Bon, là. Et j'ai essayé tout à l'heure, sortant de chez moi, que j'ai lu le CD, donc j'ai pas pu bien écouter. Pas du tout.
Mais alors, ce que vous avez écouté,
vous avez vu le CD, parce que ouais, ça suffit.
Je l'avais regardé
sur la boîte, j'ai reposé, j'écouterai.
Est-ce qu'il est beau déjà?
Est-ce qu'il est beau?
C'est super cute, super kawaii.
Non, mais Sexy Sushi, 10 ans d'existence. Il y a peu de groupes qui durent 10 ans, faut le souligner. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait toutes les conneries que vous aviez envie de faire depuis 10 ans? Est-ce qu'il vous reste encore sous la pédale?
On a splitté 10 fois quand même.
Ouais, et puis sans compter la fois où on s'est cryogénisé.
Pour mieux se décryogéniser.
Disparaît souvent pour mieux revenir. C'est des techniques,
des astuces marketing. Ouais. Voilà.
C'est des astuces que vous apprenez où?
Tupac.
Tupac et Devedjian.
Il
y a un Juppé des fois.
On prend les techniques d'un peu tout le monde, on mélange et puis du coup c'est de là que ça vient notre réussite en fait.
Ouais. Est-ce que ça vous amuse toujours autant de faire des disques ou est-ce que maintenant, le live pourrait suffire pour faire des bêtises? Est-ce que vous êtes obligé de faire des disques et des morceaux pour les jouer en public? Qu'est-ce qui vous fait le plus marrer au bout de 10 ans?
Oh non, des disques, c'est drôle aussi.
Ouais, c'est bien. Et puis, ça nous permet de jouer des morceaux différents en concert. Parce que sinon...
Toujours pareil.
Bah ouais, on finit toujours par jouer les mêmes morceaux, puis ça nous saoule au bout d'un moment.
Mais donc, c'est bien pour les concerts que vous écrivez des morceaux. Parce que Sexy Sushi, effectivement, est un groupe qui donne toute sa puissance sur scène, on peut le dire.
Ouais, et puis dans les autoradios. Moi, je compose beaucoup pour les autoradios.
Ouais.
Parce que c'est le son qui vient de l'arrière, c'est souvent le meilleur.
C'est vrai.
Carrément. La plage arrière, c'est un endroit important, je trouve, dans une voiture.
C'est vrai. Parce qu'il y a le mot plage ou parce qu'il y a le mot arrière?
Non, parce qu'il y a les basses.
D'accord.
Ouais.
Okay. Donc,
et puis le moment de la composition, c'est cool aussi, on se marre bien.
Comment ça se passe? Racontez-nous. Qui arrive avec les punchlines? Qui arrive avec les sons? Qui arrive le premier? Qui enchaîne sur quoi?
Personne n'arrive.
Tout le monde est là.
On est dans une maison de vacances et puis on fait du ping-pong.
Ouais, ça dépend des disques, quoi. Celui-là, on l'a fait plus différemment que Cyril, quand même.
On l'a fait dans les internets, celui-là.
Ouais. Celui-là, il était bien dans l'humanité augmentée.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Bah, il était bien.
Si vous voulez parler, faut se mettre près du micro.
Qu'est-ce que ça veut dire? La modalité de, enfin, la façon dont vous avez
fonctionné. On voulait prendre que des sons qui étaient donnés par des gens, quoi, dans les internets, hein, et faire un album qu'avec ces pistes-là. Mais bon, on a échoué. On échoue souvent.
Pourquoi vous avez échoué? Parce qu'il y avait pas assez de matière? Parce que
le son était pas très bon.
Il était pas mieux que le nôtre, mais ouais. Non, on a changé d'avis après.
Est-ce que je me trompe ou est-ce que j'entends Philippe Catherine au tout début du disque, il y a une
voix.
Ouais, mais non, c'est Michel Clou.
Ah, c'est Michel Clou qui est un invité aussi du magasin central.
Coucou Michel.
De Diabologum.
Michou Michou. Si tu me regardes.
Et justement, est-ce que cette idée de faire des concepts albums, des gens comme Catherine, par exemple, quand il a fait ce dernier disque où lui a été chopé, par exemple, la sonnerie d'un PC Windows, ces gens qui font des choses penser à l'avance
un petit peu bien quoi.
Non mais avec une ligne directrice forte et tout. Est-ce que c'est votre finalement un peu votre truc, parce que d'aller chercher se dire on va se fixer une règle, aller chercher des sons sur internet, on n'est pas loin d'un truc un peu concept quand même pour Sexy Sushi.
Ouais mais je dis n'importe quoi tu sais. Bah, on n'y a pas vraiment pensé.
Mais pourquoi vous dites ça alors?
Oui, nous, en tout cas le son Windows, moi je l'ai plus souvent fait en concert.
Mais en fait vous reprenez toujours une formule qui marche bien. Tu Mitch Silver, tu composes les beats, choisis ensuite par Rebecca Warrior. Et ce qui est marrant, moi, c'est après l'avoir écouté, je me suis aperçu qu'en fait c'était comme un duo de rap, c'est-à-dire avec le DJ et le MC.
On aime bien cette formule.
C'est une formule qui vous va bien,
MC Warrior.
Ouais, puis on aime bien
faire
comme ça.
On a fait des morceaux d'ailleurs qui étaient un peu hip-hop.
Comme moi. Ouais.
On prend plaisir à jouer en concert maintenant.
On a demandé à... C'était qui à Panorama là? On a demandé à un rappeur de chanter.
This is
la peste. Chanter.
On lui a fait écouter le morceau, mais il n'a pas...
Il n'a pas voulu.
Non.
Il a flippé un peu.
Il a trouvé ça nul.
C'est quoi les rapports que vous avez avec les autres artistes dans les festivals? Ils vous craignent, ils ont peur, ils viennent vers vous, ils savent qui vous êtes.
On s'entend très mal avec tout le monde.
On les voit pas
avec
trop parce qu'on a toujours des loges un peu loin.
À l'écart. Hein.
Loin.
Ouais. Avec qui vous êtes le plus mal entendu depuis le début?
Olivia Ruiz. Oh. Sans conteste.
Ouais. Racontez-nous tout ça.
Parce qu'elle nous a volé la même ligne sur le. On joue à Musillac cette année et il y a les affiches qui sont tombées et à un moment on était Sexy Sushi Olivia Ruiz sur la même ligne. Ça faisait plaisir.
Bah oui.
Mais il y a Stéphane Escher qui a confirmé. Donc
qu'on nous voit plus.
Vous dégénérer.
Pourtant, j'y croyais, je pensais qu'on allait nous voir dans le métro.
Ouais, mais non, on va pas nous voir.
Mais énorme succès pour Sexy Sushi, parce que les tournées sont pleines. C'est devenu. Quand on vous voit comme ça, on peut dire qu'au départ, c'est une blague, mais c'est devenu un groupe quand même dans le paysage qui est très sérieux aujourd'hui. Est-ce que ça vous fait un peu flipper, ça, de vous dire que vous êtes à côté d'Olivia Ruiz, par exemple?
Tu vois, on n'y est pas encore. Donc,
je crois potentiellement, vous n'êtes pas loin. Mais...
On n'est pas loin d'y arriver, mais j'attends qu'on y arrive, moi.
On est à deux doigts. Non, mais tant qu'on fait...
Ce sera marqué ça sur nos tombes, à deux doigts.
Ils étaient à deux doigts de réussir. Non, mais c'est...
On n'est pas passé loin.
Ça fait plaisir de réussir toujours à remplir les salles, quoi. C'est pas évident.
C'est mieux que
la réponse de footballeur.
Bravo, Mitch.
Bah non, mais
c'est une réponse.
C'est la sincérité, quoi.
Au départ, on aurait pu considérer que Sexy Sushi était un groupe un peu kamikaze, comme ça, qui était fait plutôt pour casser des salles polyvalentes que pour faire des salles comme le Trianon ou pourquoi pas l'Olympia.
On n'a pas eu le droit d'aller jouer à Limoges sur cette tournée parce qu'ils pensent qu'on va casser la salle.
Ah ouais.
Donc, tu vois,
il y a une réputation un peu sulfureuse quand même autour de Sexy Sushi.
Ouais, encore du boulot à faire.
Vous n'avez pas toujours été du bon côté de la loi, j'ai envie de dire.
Non, pas toujours.
Non, mais disons qu'on fait toujours ce qu'on aime, quoi, et de la façon dont on veut le faire, et du coup d'être vachement libre comme ça, c'est bien. Enfin, je veux dire, en concert on nous laisse faire ce qu'on veut, quoi, donc
même sur les disques c'est quand même super. Du coup la blague elle dure parce que ça nous fait toujours autant plaisir.
Mais est-ce que c'est une blague? C'est ça que j'ai envie de dire. Pas vraiment, parce qu'il y a quand même des morceaux que les gens reconnaissent, que les gens ont dans la tête. Enfin, c'est pas l'almanach Vermeaux de la musique. Il y a
c'est ça qui est intéressant, c'est que les gens ils peuvent interpréter ce qu'ils veulent. On leur donne pas de règles en concert, on leur donne pas de règles à l'écoute de notre disque non plus, quoi.
Combien de fois vous avez pensé, vous êtes dit maintenant on arrête, c'est bon, on a. Moi je vous ai vu, je raconte toujours cette anecdote que j'adore. Je vous avais vu au Québec dans une toute petite salle devant des Québécois qui savaient pas tellement ce qu'ils étaient venus voir, et donc Rebecca tenait dans sa main un pot de fleurs qu'elle faisait tourner à toute vitesse, et les pauvres Québécois prenaient du terreau dans les yeux à toute vitesse. Elle était donc à moitié aveuglée. Elle disait moi c'est pas correct d'envoyer du terreau. Est-ce que des moments où, après ce genre par exemple de scène, vous dites on peut arrêter, on est au sommet?
Non, il y a toujours
c'était la saison botanique.
On a encore beaucoup d'idées.
Il y a eu des sacrifices d'animaux sur scène.
On a un super truc là pour Solidaise. On se réjouit d'avance. On peut pas vous dire.
Un indice.
Il y aura des poulets.
Ah.
Ouais.
Solidaise.
Et puis au Trianon, on avait un piano à queue. J'ai chanté sur le piano à queue. C'était très beau. Tu t'avais une rose dans
les
dents.
C'était émouvant.
C'était émouvant.
Ouais, ouais, carrément.
Ouais, comme la pub Ultra Bright.
Un peu, ouais.
Un petit peu. Ouais. On a cité une marque, c'est cool. On va écouter un autre extrait de cet album de Sexy Sushi et ça s'appelle David Svez.
La bombe.
La bombe.
Mmh. Je connais le jour où ça arrivera.
Je suis sûr que cela vous semble très réel.
Le 29 août 1997, ça vous semblera vachement réel à vous aussi. Les personnes qui n'auront pas un écran total protection 2 millions vont vraiment passer un sale quart d'heure.
Ne vous énervez pas.
Oh nom de Dieu, vous vous croyez vivant et en bonne santé. Vous êtes déjà morts, vous êtes déjà tous morts. Lui, vous, vous êtes tous déjà morts. Il n'existe plus rien, tout ce qu'il y a ici est foutu. C'est vous qui vivez dans un putain de rêve, Silberman. Moi, je sais que ça va arriver. Ça va arriver.
Je pense à la bombe.
La bombe nucléaire, atomique, incendiaire, escadron de la mort, kamikaze militaire. La bombe H, la bombe M, nucléaire, atomique, incendiaire, escadron de la mort, kamikaze militaire.
Je pense à la bombe.
Ne pense qu'à la bombe, c'était Sexy Sushi dans le magasin central.
Ah, ça fait mal.
19h-20h, le magasin central de Pierre Siankowski sur le Move.
Sur le Move, n'attendons pas plus longtemps, c'est le moment que la France entière attend chaque samedi, c'est le moment de la chronique de Nicolas Guyonnet.
Alors messieurs, par quoi désirez-vous commencer? Poulet froid, pâté de foie gras aux truffes du Périgord ou macro mariné du Capitaine Soup?
La France est soulagée, allez-y Nicolas.
Ah merci, merci. Cette semaine les copains, on parle de financement participatif. Ouais, je sais, c'est sexy,
ouais,
avec des gens qu'on aime, on les aime beaucoup. La première c'est Marie-Monique Robin, ouais, qu'on avait reçue ici en début d'année pour les moissons du futur. Exactement. Un documentaire qui s'élevait encore un peu plus contre le système Monsanto. Le deuxième, c'est Denis Robert, qui avait défié Clearstream, le géant de la finance.
Prix Carlo Molinari, ouais.
Voilà. Ce sont tous les deux d'excellents journalistes, vous confirmez, Pierre ?
Ouais.
Et ça, ça peut paraître surprenant, mais ils font appel en ce moment à un système ingénieux, le crowdfunding, ou en français, le financement participatif. D'habitude, ce sont plutôt des projets insolites qu'on fait financer en crowdfunding, Tour du Monde en trottinette par exemple, ou au contraire, des projets intéressants, mais portés par des gens plus ou moins
album de Sexy
inconnus.
Sushi, livre d'Eric Sadin, des trucs un petit peu fous, quoi.
Et là, ce sont deux cadors du journalisme qui font appel aux souscriptions. Alors, aux souscriptions, c'est comme Sexy Sushi, c'est dur à dire. Aux souscriptions. Alors, pourquoi ? Le premier projet, celui de Denis Robert, est un documentaire sur Cavana, la plume acérée de Charlie Hebdo et auteur de livres comme L'Hérital, que L'Hérital, tout le monde a
magnifique.
Lu ici.
Très beau livre.
Évidemment. Ça s'appelle Jusqu'à l'ultime seconde, j'écrirai. C'est un projet intéressant, mais peut-être pas assez sexy pour les télévisions, comme nous l'explique Denis Robert.
Je suis allé voir des chaînes de télévision et je l'ai proposé. Et je les ai proposées à toutes, quoi. France Télévisions, France 5, France 4, France 3, France 2. Je l'ai proposé à Canal, je l'ai proposé même à des chaînes de la TNT et j'ai trouvé personne. Et donc je me suis dit, bah, il faut que je trouve des financements et que je fasse le film d'abord et on verrait après, quoi.
Alors après cette déconvenue, puisque c'en est une, il poste un message sur Facebook et il est ensuite contacté par les services de KissKissBankBank, la plateforme de financement participatif. Et voilà Denis Robert qui se met au crowdfunding.
Donc moi j'ai établi un budget avec ma directrice de production. Il nous manque en gros 20 000 euros pour pouvoir se payer, pas énormément, mais se payer, faire un film normalement avec des techniciens, surtout acheter des archives, quoi. Et donc c'est parti comme ça, quoi. Donc on a demandé 20 000 euros et là on est, j'ai regardé tout à l'heure, on est à un peu plus de 15 000 avec les chèques reçus ici. Donc en 15 jours, 3 semaines, quoi. Donc on est sur le point de réussir. Donc le film se fera, quoi. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle.
Excellente nouvelle, même.
Et oui. Si vous voulez soutenir le projet, le plus simple, c'est d'aller sur KissKissBankBank. Pour 1 euro, vous aurez votre nom en générique. C'est déjà pas mal. Et pour 50 euros, vous aurez, je cite, un grand merci, votre nom en générique, un DVD, une invitation à l'avant-première du film, une grande affiche Cavana et un livre de Cavana. C'est pas mal, non ?
C'est super.
C'est sympa pour 50 euros. Il n'y a pas de
porte-clés ?
Non, malheureusement, on va lui suggérer. Avec Marie-Monique Robin, c'est un peu différent parce qu'elle a placé le financement participatif directement sur son propre site et aussi parce que son prochain film, Sacré Croissance, est déjà acheté par Arte. Et pourtant, les enjeux sont à peu près les mêmes.
Moi, ce que je sais des maisons de production, c'est qu'on a toujours un moment où la trésorerie manque. Et là, il faut emprunter. Il y a des banques spécialisées pour ça, avec des taux, enfin, etc. Alors là, moi, je n'ai pas eu besoin d'emprunter du tout pour le film précédent. Et celui que je suis en train de faire, eh bien, toutes les souscriptions qui arrivent, à peu près une dizaine par jour en ce moment, eh bien, elles servent justement à financer l'enquête, à partir en repérage et éventuellement à commencer un tournage avant que le premier chèque d'Arte arrive. Et ça, c'est précieux.
C'est précieux et ça marche. Marie-Monique Robin était une des premières en France à utiliser ce système, peut-être la première. Dernière différence sur le mode de financement, ici, c'est bien un préachat de 30 euros qui donne un certain droit.
Quand on est souscripteur, eh bien, alors on préachète le DVD, donc on recevra un an et demi plus tard avec des bonus spécifique. Et en plus, on vous donne un code qui vous permet d'accéder à des pages internet réservées sur mon site internet où je présente toute l'enquête, pourquoi je vais là et pas là-bas, je fais des notes de lecture, enfin, je prépare le public au film qui sera diffusé un an et demi plus tard, bon là en l'occurrence sur Arte.
Bref, le financement participatif, c'est bon pour tout le monde et ça marche. Alors sur le site de l'inventaire du MOVE, j'ai mis toutes les infos sur les deux projets, celui de Denis Robert et celui de Marie-Monique Robin. Voilà.
Ouais, puis n'hésitez pas aussi à nous envoyer à nous de l'argent au magasin central. Voilà. Tous les moyens de paiement.
Moi, j'ai
Michel
plus de lacets à mes baskets.
Un aussi comme ça.
Ah ouais,
pour
Michel Larocque.
Se payer Larocque. Une chirurgie
un
esthétique.
Un film participatif.
Oh là là.
Je te laisse responsable de tes propos.
Est-ce que j'ai vraiment dit ça ? Vous en êtes sûr ? Est-ce que c'est moi qui l'ai dit ?
Je pense que c'est moi qui l'ai dit. En fait.
C'est toi qui l'as dit. Voilà, merci. C'est Rebecca Warrior de
Sexy.
Est-ce que justement ce côté un peu, alors on a l'impression qu'on est dans un truc un peu alternatif là, que c'est un peu compliqué, c'est que Sexy Sushi aujourd'hui ça n'est plus compliqué, vous êtes devenu, comme je disais tout à l'heure, un groupe
mainstream.
De devenir un groupe avec un public, est-ce qu'on vous le reproche un petit peu ? Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là au début, en 2004, qui se mettaient la tête contre les murs en hurlant les premiers titres et qui aujourd'hui disent Oh bah dis donc, on se fait le Trianon, on fait des salles un peu cool avec...
Ils se tapent la tête entre les murs du Trianon.
Ou est-ce qu'ils continuent à se taper de la tête?
Ils ont changé de mur, mais...
Ouais, non, mais ils sont toujours là, hein. C'est ça qui est marrant.
Vous avez le sentiment d'avoir un public qui est resté depuis le début, qui a changé,
forcément.
C'est-à-dire?
Bah il a vieilli, quoi. Bah,
ouais,
il y a moins de punk à chien.
Bah ils sont toujours là, par contre.
Il y en avait beaucoup à l'autre jour.
Ils sentaient le pâté, un peu.
Ce qui est marrant, c'est que le public...
Il y avait du punk à chien, puis des jeunes.
Le public a rien à voir... On les prend séparément. Ouais. C'est
et alors, il y avait aussi des jeunes. Vous avez réussi à entraîner un nouveau public.
Ouais, il ouais, y a des enfants.
Non, ça, j'y crois
si,
pas.
Il y avait des enfants.
On a joué
à Dijon.
Ouais.
À Dijon, il y avait
un gamin.
Rebecca et Mitch, les enfants, sont les enfants des gens qui étaient là il y a 10 ans et qui ont eu le droit de faire des enfants quand même. C'est pour ça qu'il y a des enfants.
C'est peut-être ça. Ouais.
Donc, moi, c'est pas incompatible. On peut écouter ce qui suffit.
Et être un enfant.
Faire des enfants.
On peut avoir un enfant qui est presque au collège.
Ah waouh,
sans mauvais jeu de mots. Rebecca, est-ce que vous marrez tout le temps sur scène à faire les trucs ou est-ce que des fois vous dites comme vous avez pris un piano à queue au Trianon, est-ce que vous avez envie d'être un peu plus calme des fois?
Oh non.
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 Il y a toujours cette envie de tout casser, de tout.
Ouais, j'aime bien ça.
Et pourquoi vous aimez ça? Pourquoi uniquement dans Sexy Sushi? Pourquoi le reste du temps vous avez, sans citer de nom, une vie normale? Une vie totalement normale?
J'ai pas une vie totalement normale déjà.
Presque normale.
Presque normale.
J'ai envie de dire. Et pourquoi Sexy Sushi et ce défouloir de taré?
C'est mon cadre de vie. C'est mon choix.
Notre chambre est-elle bien rangée?
Ma chambre, tu serais surprise.
Ah ouais, c'est un peu
très zen.
Je possède pas grand chose, donc
c'est un petit assez katana.
Et puis, mes katanas, mon dojo. Bon dans mon dojo, c'est assez clean.
D'accord.
Est-ce que ça existe, ça, Eric Sadin, quand on écrit des essais ou quand on fait plus largement de la littérature? Est-ce qu'il y a des moments, des endroits où on fait autre chose comme ça, on a envie de faire des trucs un peu cascadeurs? Est-ce que vous avez un défouloir, par exemple?
Pour avoir des moments de pause comme
ça. Des moments de pause pour vous défouler. Qu'est-ce que vous défoulez comment?
Est-ce que vous faites du roller?
Il y a 50 trucs. Il y a les promenades au Buttes-Chaumont. Les matchs de Champions League.
Ça me défoule pas trop, moi, les promenades au Buttes-Chaumont.
Ah, moi, j'adore. J'ai besoin de ça tous les jours.
Vous faites pas tourner, par exemple, des pots de fleurs autour de vous en jetant ça dans les Québécois?
J'y ai pensé, mais j'ai repoussé.
D'accord. Est-ce que le climat social de ces derniers mois en France, ces dernières années, j'ai envie de dire, a été propice à la révolte permanente qui est celle de Sexy Sushi? Est-ce que tout ce qui s'est passé ces derniers mois, on a vu autour du mariage pour tous,
il y a des sujets,
tous ces sujets qui ont émaillé l'actualité ces derniers mois, est-ce que tout ça a favorisé l'écriture de cet album?
Mais malheureusement, il y aura toujours un terrain comme ça qui favorisera nos paroles.
C'est vrai.
Il y aura toujours besoin de repousser les.
On écoute beaucoup les informations. En fait, et je pense que ça nous inspire dans ce qu'on fait, quoi.
On veut toujours plus de liberté.
C'est-à-dire quelle page des informations? Parce que là,
France Info, moi j'écoute.
Mais plutôt dans le fait divers, quand même, dans des choses un petit peu dures qui peuvent se passer dans des régions reculées de France. Mais c'est quoi les infos qui ont marqué l'écriture de cet album, les moments d'actualité?
Par exemple, j'ai appris que le temps de réponse en moyenne à une question, c'était 15 secondes. Et que en général, la chose qu'on voyait le plus, c'était des cadavres, et le mot qu'on disait le plus, c'était le mot mort.
D'accord.
Voilà, c'est intéressant ça comme info.
Ce qui explique que le disque est un peu triste.
Ça explique peut-être le Stabat Mater.
Mm-hmm.
Très beau Stabat Mater que vous chantez sur l'album.
Ah bah ouais.
Mais je me demande ce qui vous a inspiré dans l'écriture de cette chanson.
Vraiment. Pergolèse.
C'est vrai. C'est vrai. Non mais c'est
Pergolèse et Mitch.
Mitch.
Sûrement, je suis un bon sujet d'écriture.
Il m'inspire toujours autant, tu rayonnes.
C'est-à-dire, vous écrivez sur lui, vous rentrez chez
lui.
Je le
regarde, les yeux
qui
pétillent.
Vous écrivez des trucs.
J'écris des trucs sur ses cheveux, ses bras, sa barbe.
On a la chance de vivre plein de situations cool.
Comme lesquelles, par exemple?
On tourne pas mal, on fait pas mal de concerts. Donc
Est-ce que les tournées sont un moment propice à l'écriture? Est-ce que tout ce qui se passe...
Non, mais on emmagasine des choses, quoi, je pense.
Je me demandais... Vous êtes parisien, vous venez peut-être pas de Paris d'origine, de Nantes, voilà. Des morceaux comme J'aime mon pays, moi je me suis demandé justement, vous parlez de morceaux construits en tournée, c'est en vous baladant en France qui vous est remonté cette envie de crier votre amour pour ce pays?
Amour vache.
Ouais.
Il y a un peu d'ironie.
Si je peux dire.
Je t'avoue que ce morceau-là, il a quand même été fait au moment du mariage pour personne, quoi. C'était quand même... Ça m'a un petit peu chauffé, cette affaire.
Ça rend triste, en fait.
C'est un texte qui a été écrit dans l'urgence, un petit peu rapidement.
Dans la haine.
Dans la haine, ouais.
Dans la haine, dans la haine.
Ouais. Un exutoire.
Quel est le rôle de l'alcool dans cette situation ? Donc c'est un rôle qui peut être assez prépondérant parfois, non ?
L'alcool, le sexe.
La tout drogue, ce qui va avec.
La drogue, tout
le
ça,
saké,
quoi.
Non, le saké. Oui. Vous avez un peu japonisant avec ce nom ou ça vient de. C'est une trouvaille dans, le, je sais pas, dans un guide.
Dans l'urgence, non, dans l'urgence, peut-être.
On aime bien. Moi, j'aime beaucoup.
Vous avez déjà fait un concert au Japon ? Enfin, une série de.
On aimerait bien. Hein.
On aimerait bien, ouais. Mais
c'est vrai que j'ai vu un sexy sushi au Japon, incroyable.
C'était vrai, c'était un
Vous savez ce que c'était ?
Un magasin de,
bah non,
de
le
sushi.
Sexy, le sushi le plus sexy que j'ai vu, c'était sur les Rolling Sushi, vous savez, les tables qui tournent.
Ouais.
Un sushi avec un saumon, enfin c'est toujours les mêmes gens, saumon fumé absolument horrible, énormément de mayonnaise et beaucoup d'oignons frais dessus. Mais c'est total singulier, on se dit c'est pas possible, c'est au Japon qu'on fait des choses pareilles. Donc non, vous n'avez pas fait encore
non,
performé
pas encore, mais ça serait bien. Mais en même temps, je pense qu'avec le nom, ça va pas être facile.
Ouais. C'est pas sûr, non, c'est pas sûr.
Non, mais on s'est toujours dit ça, que c'était un peu comme Sexy Blanquette en France. Ça aurait pas pris, quoi.
Sexy Cassoulet.
C'est pas, ça prend pas. Pas
en tout cas, ça prend plutôt, puisqu'il y a des dates de tournée, je vais les répéter. Le 25 mai à Laval, aux Trois Éléphants. Le 1er juin à Bordeaux, les Vivres de l'Art. Le 4 juin à Tours, le festival Au Quart de Tours, excellent jeu de mots.
Ouais.
Le 29 juin à Paris,
on va peut-être l'annuler celui-là. Ouais.
Solidaire, excellent jeu de mots aussi. Le 6 juillet à Bobital, au festival de Bobital. Le 12 juillet à Aix-les-Bains, à Musilac. Le 27 juillet à Montréal, au Belmont. Alors là, les Québécois sont revenus. Il faut mettre des lunettes pour ne pas prendre des trucs dans les yeux. Le 2 août à Aulnoy-sur-Emery. Ensuite, dans le Dorset aux États-Unis, là on va s'arrêter là parce que les auditeurs.
Aux États-Unis ? Non,
je veux dire en UK, en United
en UK,
Kingdom.
C'est pareil.
Ensuite, le 11 août à Domarien Festival Chien à Plumes. Le 14 août à Luxeuil Festival Musique à la Rue. Et ensuite.
Un jeu de mots.
Musique à la Rue ? C'est quoi le jeu de mots ?
Vous allez au festival Chien à Plumes quand même.
Ensuite,
non, mais
le 7 septembre.
Je vais pas aller partout.
Vous jouez à l'île de White, à Festival.
L'île de White.
Ça, c'est quand même pas n'importe quoi.
Ouais,
comme
c'est
Jack
chouette.
White.
Il va y avoir du monde là.
Bah, si c'est quoi le gros festival qu'on avait
Glastonbury,
fait
Glastonbury, on avait joué à Glastonbury.
Ah, ouais. J'en garde un souvenir particulier.
Bah, on ouvrait pour Beyoncé d'ailleurs.
Voilà.
Ça s'était très
elle
mal passé.
Pour vous,
hein.
Même, je pense.
Ouais.
C'est ça s'appelle.
Elle
vous
avait
n'allez
fait
pas...
la choriste sur notre concert. Ouais.
Putain.
N'allez pas repartir les mains vides. Point d'interrogation. Sexy Sushi, vous restez avec nous. On va écouter un autre groupe. Ça s'appelle Guns N' Roses. Je ne sais pas si vous connaissez. Le morceau s'appelle You Could Be Mine. C'est la bande originale du film Terminator 2 qu'on a entendu un petit peu tout à l'heure déjà.
Bon, d'accord.
Allez.
Très bien.
Wow, c'était Guns N' Roses dans le magasin central avec You Could Be Mine, alors qu'une bagarre a éclaté entre Mitch Silver et Rebecca Warrior.
C'est ouais. Faux, le magasin central de Pierre Sienkowski ouvre de 19h à 20h. Sur le move.
Une bagarre un peu molle, mais une bagarre. Eric Sadin est avec nous dans le magasin central. Eric Sadin, vous étiez venu en 2011 nous parler de la société.
C'était bien en 2011.
De l'anticipation, c'était super.
C'était une super émission.
Vous revenez aujourd'hui avec L'Humanité augmentée aux éditions L'Échappée, l'administration numérique du monde. Alors est-ce que j'ai lu dans les Inrecuptibles que L'Humanité
qui est sortie déjà cette semaine,
puisque nous sommes samedi, L'Humanité augmentée serait le troisième volet d'un triptyque donc qui suivrait surveillance globale pour commencer, la société d'anticipation et aujourd'hui L'Humanité augmentée. Est-ce que vous l'avez conçu comme ça ou est-ce que c'est finalement votre façon de suivre les choses et d'être au fait de ce qui se passe dans toute l'actualité, toute la vie numérique qui est la nôtre, qu'on est arrivé aujourd'hui à cette conclusion? Parce que moi j'ai l'impression que voilà, c'est... Allez-y.
Pierre, je suis épaté par
votre question. Ah non, vraiment, épaté, c'est génial.
Vraiment, je suis épaté. Parce qu'il s'agit exactement de ça. Je m'explique très simplement. C'est-à-dire, a posteriori, je nomme ça une trilogie parce que ça fait bien. Hein, voilà, il y a trois bouquins qui se
suivent. On peut avoir un coffret après.
Voilà, on peut avoir un coffret. Trois bouquins qui se suivent, qui s'articulent avec des logiques comme ça successives. Mais initialement, ce n'était pas du tout conçu comme ça. C'est-à-dire que l'essai dont nous parlons, le premier dans cette trilogie, c'était un bouquin qui était paru chez.
Surveillance globale.
Voilà, chez Climat Flammarion. Ça s'appelait Surveillance globale. Et là, bon, j'ai vu à quel point toute une architecture technologique était en place et à quel point les conditions de la surveillance. Lors de la première décennie du siècle avait été bouleversé de part en part, alors par les événements du septembre 2001 et par l'interconnexion généralisée qui a fait ces deux événements croisés plus le marketing aussi aux avant-postes de l'observation des personnes on était passé d'une sorte d'observation des personnes à une traçabilité voire une traçabilité à saisir, à une volonté de saisir les événements en amont. Et ça m'a amené sur le deuxième. Voilà, c'est au cours de cette recherche. Ce n'était pas du tout prévu que je fasse un deuxième volet comme ça, identifié comme tel. Et après, j'ai vu la société d'anticipation où je me suis rendu compte, donc au cours de la première et seconde recherche, que voilà, il y avait une propension par la technique, mais aussi une propension culturelle en général, sociale, à vouloir prévoir les choses en amont par la crainte de phénomènes terribles qui pourraient advenir, ou par éviter des risques thérapeutiques, la médecine prédictive, ou par le marketing.
Prévenir le risque
devancer le désir des consommateurs. Ouais. Ou devancer le désir des consommateurs. J'ai vu aussi que c'était une dimension et qui s'étendait à plein de champs de la socialité. Et ça, pour donc répondre à votre question, Pierre, je me suis encore rendu compte au cours de cette recherche que c'était des propensions assez futuristes, mais déjà qui se déployaient au présent, et qui étaient indissociables d'un état de la technique. Mmh. Et cet état de la technique, j'ai vu au fur et à mesure, mais alors là, ça suit exactement le mouvement de la décennie, enfin, le mouvement historique que vous évoquez. C'est-à-dire, j'ai vu à quel point il y avait une sorte d'intuition de la technique qui ne cessait de se développer. L'intuition de la technique, c'est quoi? C'est alors ce qu'on appelle les big data, la capacité de récolter de toutes parts des data, donc nous cessons de disséminer
des informations
de toutes parts, la capacité de les stocker à la loi de Moore, puissance de stockage, de les traiter, alors traiter ça veut dire de les distribuer, d'évaluer des situations individuelles et collectives par des systèmes technologiques, de suggérer des solutions et on va en parler certainement maintenant, voire de prendre des décisions à notre place. Et alors là, je me suis dit, déjà lors du deuxième essai, il y a un mouvement comme ça, je me suis dit, il faut que j'aille voir de plus près, et c'est ce qui a donné cet essai L'Humanité augmentée.
Et L'Humanité augmentée, donc, ça part d'un postulat au départ, c'est que la révolution numérique, elle arrive, entre guillemets, à une espèce de fin, on a du mal quand même à la définir, cette fin, mais que derrière, voilà, c'est-à-dire qu'il y a une espèce, aujourd'hui, de rapprochement entre l'homme et le robot. Vous parlez d'ailleurs d'anthropologie, c'est un mot que vous avez, c'est un néologisme que vous avez vous-même inventé. Et tout ça, c'est très troublant et c'est l'essence de ce livre, L'Humanité augmentée. Vous dites de quel côté, qui est de quel côté? On a du mal à évaluer tout ça aujourd'hui.
Oui, alors quand je dis que c'est la fin de la révolution numérique, c'est-à-dire, j'entérine pas une date, mais il me semble que on est passé, en gros, de la fin des années 90, toute la décennie du 21e siècle, à l'âge de l'accès, c'est-à-dire l'interconnexion, elle est globale, la pénétration des ordinateurs, d'Internet.
Allez, je le disais, c'était Jeremy Rifkin.
L'âge de l'accès. Alors, Pierre, mais vous êtes en super forme aujourd'hui.
Je suis en très grande forme.
Je suis épaté au carré. Jeremy Rifkin, comme par hasard, ça, c'est une chose que je me suis dit souvent, 2000. C'est-à-dire, voilà, ça a entériné la décennie, l'accès. Alors, ce n'est pas l'âge de l'accès pour Amérique du Nord et Europe du Nord.
Au RERB.
C'est l'âge de l'accès globalisé. Hein. On voit bien aujourd'hui, il suffit d'aller en Chine. Moi, je suis très souvent en Chine ou en Inde. On voit, ça y est, les téléphones, bon, pas les smartphones un peu moins, mais bon. C'est partout, c'est global. Bon, c'est l'âge de, alors l'âge de l'accès, c'est quoi? C'est toutes ces données qui sont stockées sur des serveurs et vers lesquelles nous pouvons aller et qui ont produit cette interconnexion globalisée qui est à portée de main et universalisée. Ça a produit toute une série de bouleversements. Alors essentiellement, les conditions du commerce et le rapport à l'information, hein, oui. Essentiellement. Et donc ça, c'est l'accès. Et je me suis rendu compte, et comme cela est maintenant d'une certaine façon universalisé, j'ai envie de dire, mais jusqu'à quand cette histoire de révolution numérique? On voit bien qu'il y a quelque chose qui est entériné, et que ce n'est pas parce que le numérique continue et que l'accès continue de s'amplifier, qu'il n'y a pas d'autres mouvements parallèles qu'il ne faut pas isoler, identifier et voir ce qui se joue. Et ce qui se joue, ce n'est pas l'âge de l'accès.
Non, c'est l'âge de la technique.
Comment?
Et c'est l'interaction qui est aussi
alors,
troublante,
c'est-à-dire
l'interaction entre l'homme et le robot, c'est-à-dire le robot numérise, l'être humain fait numériser le robot, et à la fin on se demande qui est vraiment à la tête de la machine.
Et il faut bien qu'on se comprenne bien, Pierre, quand on parle de robot numérique,
oui.
Hein, pas de robot de métal, hein, l'imaginaire années 50.
De la robotique en général.
Ce qu'on appelle les agents numériques. Mais cette affaire de l'âge de l'accès à l'âge de l'assistanat, moi c'est ce que je signale dans le bouquin et je n'arrête pas d'avoir des vérifications continues. Par exemple, j'ai vu, on parlait de Robocop tout à l'heure, puisque Guns N' Roses c'était
dans la BO.
Terminator, pardon. J'ai vu deux films très troublants pour moi par rapport à ceux dont nous parlons là ces deux dernières semaines, c'est Iron Man 3 et Oblivion. Alors pourquoi je dis ça, l'âge de l'assistanat? Je vais m'expliquer, hein, 30 secondes là-dessus. L'âge de l'assistanat, c'est-à-dire l'accès, c'est on va vers les informations. Et l'âge de l'assistanat, l'âge de l'intelligence de la technique, c'est les flux numériques qui viennent vers nous et qui nous suggèrent individuellement ou collectivement. Alors par exemple les applications, avec évidemment cet événement capital à la fin de la première décennie du 21e siècle, c'est le smartphone. Mmh. C'est-à-dire l'interconnexion spatio-temporelle, la connexion spatio-temporelle ininterrompue, et la géolocalisation agrégée, et le fait que l'alerte, on me suggère, telle personne à rencontrer, tel magasin qui correspond à mes profils, etc. Et ça, c'est quelque chose qui s'étend de plus en plus. Par exemple, IBM, des grands systèmes qu'ils ont délaissé la fabrication, on le sait tous maintenant, hein, la fabrication d'ordinateurs, pour construire de grands systèmes intelligents, comme ça, de régulation des flux, de régulation de la consommation, distribution de l'électricité. Et pourquoi je parlais d'Iron Man et d'Oblivion? Parce que, par exemple, dans Iron Man, Jarvis, je ne sais pas si vous l'avez vu.
Si.
Vous l'avez vu?
Ouais.
Tu l'as vu, David?
C'est bien.
Bon, alors Jarvis, l'assistant qui est dans l'armure, là,
oui.
Hein, il y a un design très très beau quand
ouais.
On voit Robert Downey Jr. de son cas.
C'est l'homme augmenté, en fait.
C'est la réalité augmentée quand il est dans
l'armure.
L'homme
augmenté.
Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il dialogue constamment avec Jarvis.
Ouais.
Et Jarvis, c'est l'assistant parfait, c'est tout.
Ouais.
C'est l'omniscience absolue. Alors là, c'est pour Iron Man.
Ouais. Hein. Et Oblivion.
Et alors, Oblivion, ce qui est
encore plus loin.
Oui, non, mais Oblivion, d'abord, ça se passe en 70, supposé se passer en 2077.
Ouais.
Et bon, les interfaces, on a l'impression que c'est des interfaces contemporaines, ils utilisent des écrans. Moi, je pense que ça, c'est pas bien vu, mais il y a un truc qui est très, très bien vu. Si vous avez vu Oblivion, il y a un truc qui est très bien vu.
C'est
les drones. Non, moi, j'aime beaucoup Kosinski, le Tron 2.
Voilà.
Le Tron
ah oui.
2. Moi, les gens n'ont pas aimé le Tron 2. Moi, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Avec Daft Punk, vous parliez de Daft Punk. Enfin, bon, peu importe. Mais qu'est-ce qui se passe dans Oblivion? C'est qu'il y a des drones automatisés.
Ouais.
Et qu'est-ce qui se passe avec ces drones automatisés?
Ils prennent des décisions.
C'est qu'ils sont miniaturisés. Exactement, David. Ils sont miniaturisés, mais ils ne sont pas que seulement qu'ils prennent des décisions. Ils identifient les personnes, il y a de la reconnaissance, il est relié à des bases de données de qui il s'agit, degré de dangerosité des personnes, et s'il s'avère que c'est des personnes qui doivent être, qui rentrent dans la liste, et autonomie d'envoyer des targets d'elles-mêmes, d'eux-mêmes pour les drones. Et là, on voit bien que, alors l'humain n'est pas impliqué dans ça, il est impliqué dans la conception des systèmes et des objets, mais il y a quelque chose, voilà, de délégation de la décision. Alors évidemment, on peut parler du trading algorithmique, mais par exemple, ça, c'est à la fois futuriste et à la fois, ça correspond exactement à un moment historique qui est le nôtre, c'est-à-dire de construire des systèmes qui sont capables d'évaluer, suggérer, prendre des décisions. C'est très troublant, hein, dans l'histoire de l'humanité, de dire il y a une intelligence qui n'est pas du tout notre intelligence à nous, hein, mais qui vient de nous, qui ne vient pas de la planète Oblivion, hein, qui vient de notre intelligence.
Mais qui s'est un petit peu autonomisée.
Et qui s'est autonomisée.
C'est ça qui est un peu flippant.
Qui s'est autonomisée et qui a des capacités de collecte, parce que c'est surtout une intelligence capable de collecter et d'opérer des corrélations, hein, d'opérer des corrélations entre tel fait, tel fait, tel fait, à des vitesses de la lumière, qui dépassent infiniment nos capacités d'abstraction. Et pourtant, ce sont des productions humaines.
Eric Sadin, vous parliez de Daft Punk il y a quelques instants. On va justement les écouter avec un morceau qui s'appelle « Within ». Magasin Central avec Within, un extrait de Random Access Memories que David Fess va bientôt décortiquer pour vous.
Le Magasin Central de Pierre Sienkowski ouvre de 19h à 20h sur le Move.
La livraison de la semaine de David Fess.
J'avais le fou rire.
Il avait le fou rire.
Je te fais rigoler.
Ouais, vachement.
Je suis là pour te faire taper le cul par terre, mais qu'est-ce que tu veux dire marrant, marrant, comment, plus marrant? Dis-moi ce qui est marrant.
La semaine dernière, je vous parlais du rap conscient alimentaire en compagnie du rappeur Seth Gecko, qui n'avait visiblement pas compris le concept. Alors cette semaine, on reste dans la fantasy puisque j'ai décortiqué pour vous le nouveau Daft Punk. Alors je ne viendrai pas critiquer ce nouvel opus qui est très bon, hormis sur le morceau avec Panda Beer. Mais bon, dans le fond, rien à dire.
Moi j'aime bien.
Ouais, mais
ouais, c'est bon les gars, on enchaîne.
Alors je sais que Sexy Sushi en fan n'a pas trop aimé.
Bah, je l'ai pas écouté en fait.
Ah bon, bah c'est super.
J'ai dit que j'aimais pas avant de l'écouter.
Bah, c'est bon, bravo.
Pour être sûr.
Alors je suis venu vous décortiquer pour vous car il semble qu'il n'y a pas de sample sur Random Access Memories contrairement aux autres. Enfin, quoique sur le morceau Contact qui se trouve à la fin de l'album. Alors moi, quand j'écoute ça, ça me rappelle un peu ça.
Oh là là, un attentat.
Et oui, vous reconnaissez Dieu que c'est beau, Daniel Balavoine, sorti en 84 avec les deux filles d'Abba au cœur. Ça, vous le savoir quand même, les deux filles d'Abba sur l'ensemble de Balavoine, c'est pas tous les jours. Alors, pour ceux qui n'étaient pas au courant, alors du moins, je pensais que c'était ça le sample, mais en fait, non, parce que selon Rolling Stone, ils ont rêvé qu'il n'y avait qu'un seul sample dans l'album, et d'ailleurs, le voici. Le morceau original, c'est un groupe australien qui s'appelle The Sherbs, sur le morceau We Ride Tonight, sorti en 82, donc bien avant Balavoine. Alors du coup, ça va être dur de dire que Daft Punk ont pompé sur je ne sais quel morceau, comme certains aiment à le rappeler pour dire que l'album est naze. Pourtant, à écouter de plus près, on peut griller plusieurs influences du groupe, certaines plus ou moins affichées. Exemple sur le morceau Give Life Back to Music. Alors, cette intro à la guitare, ça me rappelle un peu ça. Laila d'Eric Clapton.
Ah ouais.
Il y a un petit air quand même, non ?
Ouais, un petit air, on n'est pas loin.
Alors, autre inspiration sur le même morceau ? À votre avis ? Oh, c'est très facile. Hein.
Et ouais. Là, c'est flagrant
chic,
quand même.
Good times, ils ont juste accéléré un petit peu plus le rythme, ouais. Et c'est exactement pareil.
Vous savez que le guitariste, c'est Al Rogers.
Oui, mais justement, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Mais si vous voulez faire ma chronique,
allez-y.
Vu que c'est Al Rogers qui joue à la guitare sur le morceau, ouais. En tout cas, il s'est pas fait chier, hein, il a juste accéléré un petit peu. Puis voilà. Alors, pour aller un peu plus loin dans le délire, j'ai perçu une inspiration qui pourrait en étonner plus d'un. C'est sur le morceau Lose Yourself to Dance avec Pharrell Williams.
Axel Bauer ?
Non.
Cargo de nuit ?
Cargo non, un peu de dans nuit. Moi, ça me rappelle un peu ça.
Ouais.
Juste qu'ils ont interverti les notes.
Ouais, faut aller voir.
Voilà, The Cure, Close to Me. Alors, je vais peut-être me faire incendier, vilipender, voire peut-être féliciter pour ces tentatives d'explication musicale. Et peut-être que dans 2-3 ans, tout ceci apparaîtra sur des sites de sampling comme WhoSampled qui répertorie tous les samples. En tout cas, bravo les DAF, vous avez réussi à faire le buzz et vous êtes déjà numéro 1 partout. Alors, les critiques, vous pouvez vous en taper maintenant. Voilà.
On dirait net
c'était, c'était l'adresse de David Fez au Daft Punk, qui doivent être très touchés d'avoir entendu ça.
Oui, on est content.
Justement, Daft Punk, c'est intéressant. Eric Sadin, eux-mêmes ont à un moment donné effectué un espèce de retour en arrière. Vous parlez d'hybridité un peu dans votre livre, de ce moment où effectivement on a ces objets qui prolongent notre corps, il y a ces lunettes 3D, il y a ces smartphones, vous parlez de tout ça. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui cette humanité augmentée, elle est totalement, je veux dire, on est obligé de tendre vers ça, ou est-ce qu'on peut aussi prendre conscience du fait qu'on a été trop loin ? C'est quoi votre sentiment là-dessus ?
Je crois que c'est cette fameuse ambivalence de la technologie aujourd'hui, c'est-à-dire on peut se dire qu'avec tout ce qui se passe, parce que c'est quand même... On voit bien que la temporalité a changé. Hein. Tout ce qui s'est passé en 10 ans, c'est presque 50 ans en termes de production de nouveaux objets, de nouveaux comportements, enfin même plus de 50 ans. Enfin, chaque année, il y a des choses, voilà, il y a une succession ininterrompue. Donc il y a à la fois du vertige, il y a à la fois une dimension extrêmement ludique dans le rapport aux technologies.
Une dimension ludique de la technologie.
Eh ben, évidemment, ludique et ludique, ombilical. Enfin bon, dans un chapitre du livre, je parle du rapport totémique à la technique, c'est-à-dire à la fois le proche et le lointain. Proximité, à la fois ils sont sur certaines choses infiniment plus puissants que nous, donc c'est la dimension d'ambivalence, c'est-à-dire à la fois il y a la séduction, mais dans la séduction il peut y avoir des fonctionnalités positives, c'est-à-dire évidemment des choses à construire. Moi je pense même qu'en France on ne construit pas assez de choses, hein, bon, et à la fois il y a toute une série d'effets pervers, inquiétant. Par exemple, l'intelligence de la technique dont je parlais tout à l'heure, il y a une tendance comme ça à vouloir faire tout communiquer avec tout. C'est-à-dire ce que j'appelle moi dans mon jargon lissage algorithmique, c'est-à-dire éviter les risques. Hein. On a des alertes, je me balade dans tel coin de New York, n'allez pas là à Central Park, alerte. Hier, vous avez un look, parce qu'on connaît évidemment les bases de données, connaissent mon look, hein, connaissent mes achats, connaissent mon pouvoir d'achat. Vu ce que vous êtes, vu ce qui s'est passé ces derniers mois, vu la chaleur qu'il fait, vu la densité de bars là, etc., le concert qu'il y a eu aussi 2 heures plus tôt, boum, alerte, je devrais pas, on me conseille de ne pas aller là. Donc on voit bien que c'est éviter les risques et aussi optimiser, c'est-à-dire que ce serait trop dommage de passer à côté d'une boutique de chaussures qui me conviendrait parfaitement. Donc on voit bien qu'il y a aussi quelque chose qui infléchit les décisions aussi, ce que j'appelle l'infléchissement algorithmique de la ville, encore c'est du jargon très simple, hein. C'est-à-dire comment aujourd'hui les algorithmes, les données nous pousse à agir comme ça plutôt que comme ça. Alors, la place pour notre propre parole et notre individualité, à la fois on peut dire il y a des choses qui nous servent, et à la fois il y a quand même des choses qui viennent de l'extérieur et qui nous pressent, quoi.
David Fez.
Est-ce que toutes ces technologies ne risquent pas de nous ramollir le cerveau à force ? C'est-à-dire qu'on aura un cerveau qui sera de plus en plus assisté, comme vous le dites, et qui le risque, c'est que la machine va être plus intelligente que nous à force ?
Bon, alors ça, c'est complexe. Ça, c'est des questions complexes. C'est-à-dire que, non, c'est-à-dire que là, on voit bien qu'on a peu de temps. Question éminemment ouverte, importante. C'est-à-dire, on voit bien que... Alors moi, j'entends très souvent parler de le savoir, Internet, le savoir. Ouais, enfin, le savoir, moi, je veux bien. Il y a aussi beaucoup, surtout beaucoup d'informations, quoi. Hein. Attends, de dire que c'est du savoir, je...
Surtout savoir. Qu'on le retient pas, en fait.
Ouais, bah, ouais, oui. Bon. Alors, on sait très bien aussi que le rapport à la technologie, historiquement, c'est un rapport prothétique, c'est-à-dire c'est une augmentation du corps humain, hein, des machines, des machines-outils. Etc. Aujourd'hui, on vit une révolution cognitive, hein, c'est-à-dire puissance cognitive et dans l'accès, dans la suggestion, dans ce que je peux... De plus en plus, quand on va quelque part, on rencontre quelqu'un, on veut savoir ce qu'il en est, quoi, avant de faire. Hein. On veut savoir. Il y a une transparence, il y a une connaissance. Alors, comment on agit avec ça ? Il n'y a pas de règle. Difficile d'être moraliste, difficile d'être passéiste. Moi, je crois, mais alors, une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit, c'est à la responsabilité individuelle. C'est-à-dire, comment ne pas... Moi, je sais qu'à chaque
fois
que je
bosse... Donc, c'est aux
hommes de ce... Mais, par exemple, David, moi, je sais très bien, je pense que quand je vais dire ça, tout le monde va se reconnaître. Moi, en ce moment, j'écris encore un nouveau bouquin à la maison. À chaque fois que je vais passer sur Facebook, voir les messages, dire deux, trois bêtises, je lui dis, mais c'est pas prêt, tu perds ton temps, quoi. Tu perds ton temps. Hein, donc, et c'est une lutte, c'est les comportements individuels. Et on voit bien qu'il y a une sorte d'enveloppement comme ça, avec les flux, et qui viennent de plus en plus vers nous, avec des technologies qui ont une ergonomie de plus en plus flexible, adaptée. Donc, pour affirmer un peu de divergence, de différence, un peu de distance, peut-être pas de refus, de distance, c'est pas facile. Hein, c'est pas facile. Et en même temps, il y a des choses formidables qui se passent. Donc, on voit bien que le composé, il est tortueux, il est complexe, et que c'est notre temps présent. Hein, c'est des questions présentes, c'est notre temps présent, aussi bien d'un point de vue collectif qu'individuel. Comment chacun profite de ça et en même temps se met un peu à distance de certaines habitudes ou usages.
Merci Eric Sadin d'avoir été avec nous. Le livre s'appelle L'humanité augmentée aux éditions L'Échappée. Merci Sexy Sushi d'avoir été avec nous. Ça s'appelle Vous n'allez pas repartir les mains vides, en tournée tout l'été dans toute la France et même en Angleterre. Cette émission, vous pouvez la réécouter sur www.lemove.fr. Elle était réalisée par Clémence Bonfils. Vous nous retrouverez la semaine prochaine de 19h à 20h, comme chaque samedi. Et tout de suite, on passe le relais à celui qui s'appelle Akhenaton pour son émission Tu le sais. Ciao.